La création, Père Marie-Dominique Philippe, Rimont, 14 novembre 1983.
Je vais vous rappeler la position du Timé, en vous disant que on ne perd pas son temps à lire le Timé. Donc il faut essayer de trouver un moment où on peut lire le Timé. Et en faire un petit résumé, c'est beau. C'est quand même la première théologie de la création. Elle est fausse, mais elle est belle. C'est sur Platon. Alors c'est bon de se laisser séduire par Platon pour se laisser corriger par Aristote ensuite. Parce qu'après, la grande séduction, parce que Platon c'est quand même la grande séduction. Alors après, les autres séductions sont moindres. Il vaut mieux se laisser séduire par le plus beau que se séduire par des moins beaux. Et une fois qu'on est séduit par le plus beau, les autres séductions jouent moins. Et Aristote est là pour nous faire comprendre l'erreur de cette séduction. Alors là, c'est le Decello. Dans le Decello, je n'ai plus la référence exacte, mais c'est facile à trouver. Dans le Decello, Aristote montre comment l'erreur de Platon, c'est de rester au niveau du devenir. C'est qu'au niveau du devenir, la création ne peut pas être au niveau du devenir. C'est absolument impossible. La création est au niveau de l'être. Au niveau du devenir, il ne peut pas y avoir de premier. Et alors, c'est là où on voit très bien toute la philosophie aristotélicienne, la philosophie du devenir. Il n'y a pas de premier dans l'ordre du devenir. On peut remonter à l'infini. C'est intéressant de voir ça, parce que c'est en ce sens-là que, pour Aristote, on ne peut pas préciser l'origine du monde. S'il y avait un premier dans l'ordre du devenir, on pourrait préciser l'origine du monde. Et alors ce serait ça qui serait très intéressant de voir avec la pensée moderne, quand on dit que maintenant nous pouvons préciser que la Terre a eu un... Je crois que c'est faux. Je crois que la vision d'Aristote est très très juste. C'est que dans l'ordre du devenir, je ne peux pas préciser un premier. Or, Platon se place du côté du devenir, donc il ne touche pas le problème de la création. La création ne peut exister qu'au niveau de l'être. Et alors là, Aristote apporte une distinction extrêmement intéressante, qui je crois est la clé. Il montre la distinction du non-être relatif, la privation, et du non-être absolu, aplos. Et si la création existe, elle ne peut exister qu'au niveau du non-être absolu. Vous voyez, au fond, Aristote pose là le problème de ex nihilo. Il ne le dit pas. Et c'est intéressant de voir qu'au fond, il le pose. La création ne peut être qu'à partir de rien. Parce qu'elle ne peut être qu'à partir du non-être absolu. Aristote ne dit pas plus. C'est très beau de voir que, de fait, selon la philosophie de la nature, Aristote ne peut pas traiter du problème de la création. Et donc il n'en traite pas. Mais il critique le Timée, en montrant que le Timée n'est pas au niveau même de la création, puisque ça reste au niveau du devenir. Mais alors, je crois que c'est ça qui est intéressant à voir. Ce serait un problème, du reste, qui serait très important à voir. Comment se fait-il qu'en physique, il montre la possibilité d'affirmer un être immobile, et comment, dans le Decello, il ne traite pas de la création? Je pose le problème comme ça pour essayer de réfléchir toujours sur cette pensée philosophique d'Aristote, qui est quand même importante pour nous, et intéressante au point de vue de ce problème de la création. En physique, c'est bien. J'aurai une thèse là-dessus, n'est-ce pas, bientôt, qui apparaîtra. Alors, en physique, Aristote montre que la physique aboutit au moteur immobile, au premier moteur immobile, et comment, dans le Decello, qui reste au niveau de la physique, Aristote ne va pas plus loin, il reste négatif par rapport au problème de la création. Ça, je crois que c'est très éclairant de faire ça. C'est très éclairant de bien montrer deux positions différentes. Vous voyez, dans le Decello, il détruit la position de Platon, du Timée. détruisant la position de Platon du Timée, normalement, on devrait montrer la position positive. Quand vous détruisez un bonhomme, vous devez construire, normalement. Aristote ne construit pas. Il montre seulement que si la création existe, elle est au niveau du non-être absolu. C'est intéressant que le terme platonicien aplos, qui revient ici, le non-être absolu. Elle ne peut être qu'au niveau du non-être absolu. Le non-être absolu, c'est le rien. Et donc, le point de départ de la création, c'est ex nihilo. Aristote ne le dit pas, mais au fond, la réalité y est. Si la création, si on parle de la création, ça ne peut se faire qu'à partir du rien. Alors, on aimerait qu'Aristote puisse là dire quelque chose de positif. Il ne dit rien de positif. Il détruit simplement la position de Platon. Comment se fait-il que dans la physique, il aboutit au moteur immobile? Alors que de fait, on devrait dire, puisqu'on est en physique, il devrait simplement montrer que notre univers physique, notre univers du mouvement, comme tel, ne peut pas être l'ultime réalité. Pas plus. Comme il montre qu'il ne peut pas y avoir d'absolu uniquement au niveau du devenir. Alors on aurait deux thèses parallèles. Oui, c'est ça que je veux montrer. On aurait deux thèses parallèles. Comment se fait-il que lorsqu'il est en physique, il aboutit au premier moteur immobile? Et c'est quand même le premier qui a dit ça. Et puis ça a fait couler pas mal d'encre. Et ça continue d'en faire couler. N'est-ce pas? Car il s'est dit le premier moteur immobile. Et du côté de la création, dans le Défilo, négatif. Alors, on serait tenté de dire, vous voyez, Aristote est beaucoup plus formel dans le Decello que dans la physique. Dans la physique, le problème du moteur immobile, est-ce que c'est encore de la physique? Ou est-ce que c'est l'intervention de la philosophie première qui peut dire problème du moteur immobile? Oui. Alors, je crois que ce sont deux positions parallèles qu'il faut étudier toujours en parallèle. Pourquoi? Parce que ce sont deux positions qui montrent que quand on est en philosophie de la nature, on ne peut parler que négativement de Dieu. Notre monde physique, considéré en lui-même, ne nous permet que de parler de négativement de Dieu, c'est-à-dire un premier moteur non mobile. Il est immobile, non mobile. Et quand je dis un premier moteur non mobile, je ne sais absolument pas ce que c'est au niveau de la philosophie de la nature. Donc je suis bien encore dans un primat de la négation, exactement comme pour la création. Donc les deux positions sont parallèles, mais les expressions sont différentes. Si, vous voyez, c'est ça qui me semble intéressant, mais au point de vue de la pensée, c'est la même chose. Et l'une, c'est éclaire l'autre. Aristote ne va pas plus loin en physique que dans le Decello. Non, pas plus. Premier moteur, c'est évident. Premier moteur, c'est là. L'acte est d'avoir la puissance. Donc il faut nécessairement que tout dépende d'un premier moteur, d'un premier acte, ça c'est sûr, d'un premier moteur. Mais non mobile, alors non mobile, je ne sais pas ce que ça veut dire, puisque je suis ici en face de l'ens immobile. Comme dira Cachetan. La philosophie de la nature, c'est l'ens mobile. Je ne saisis l'ens que dans le mobile. En tant que mobile. En tant que mobile. Donc quand j'ai dit non mobile, je ne saisis rien. Mais la philosophie de la nature s'arrête là. Donc je suis en face de quelque chose qui transcende, et puis c'est tout. Je ne peux pas dire quelque chose de positif. L'éminenter, vous voyez, la position causalité, négation, éminence. C'est chez Aristote, hein. Il ne faut pas l'oublier. Aristote ne le dit pas comme cela. C'est Denis qui le dira. Mais ça vient quand même, c'est quand même posé dans Aristote. Le livre Lambda de la métaphysique donnera l'éminence, l'éminentaire. C'est la philosophie première qui permet d'expliciter l'éminence. Tandis qu'en philosophie de la nature, je montre uniquement la causalité et la négation. Je parle du mobile et je dis non mobile. Je parle du devenir et en philosophie de la nature, donc dans le Decello, je peux simplement montrer la génésis. Uniquement le devenir, la génésis, la génération. On ne peut pas dire plus. Eh bien, la création n'est pas au niveau de la génération. Ne peut pas être au niveau de la génération. Pourquoi ? Parce que toute génération présuppose quelque chose qui est antérieur. Donc la génération n'est jamais à partir d'une être absolue. On ne peut pas penser la génésis à partir d'une être absolue. La génésis au niveau d'une être absolue n'a pas de sens. Donc, ce n'est pas une génésis, la création. Ça ne peut pas l'être. Donc, des deux côtés, je vois la limite de la philosophie de la nature. Et la limite de la philosophie de la nature, c'est justement de poser par la causalité la négation par rapport à quelque chose de plus. La philosophie de la nature se termine par un primat de la négation. C'est ça qui me semble très important. La causalité, qui me donne quelque chose de positif, mais je ne sais rien, absolument rien, de ce que c'est que l'être premier en philosophie de la nature. Seule la philosophie première, qui est au niveau de l'être comme tel, va pouvoir expliciter le mode d'éminence. Mais en philosophie première, Aristote n'explicite pas le problème de la création, alors qu'il aurait pu être explicité dans le livre Lambda. Il ne l'a pas fait. Il a simplement dit ceci, que c'est à partir de ce premier que tout est suspendu. Tout est suspendu à partir de ce premier moteur qui est l'acte pur. Tout est suspendu. Le ciel et la terre, dit-il, sont suspendus à lui. Et sont suspendus à lui, c'est-à-dire sont en dépendance selon une attraction. Autrement dit, par le point de vue de la causalité finale, il montre que tout ce qui est créé, tout ce que nous voyons, tout ce que nous constatons, est radicalement en dépendance. Et Proclus, commentant le Timée, dit, et c'est intéressant de le noter, je n'ai pas la référence non plus. Je n'ai pas ici, parce que je n'ai pas les feuilles sur la création. C'est encore dans les caisses. Proclus dit textuellement que, de fait, ce que Aristote dit en disant ça nous montre qu'Aristote à penser la création. C'est intéressant à voir ça, parce que ordinairement on dit, vous savez bien, Gilson le dit, et après Gilson tout le monde l'a répété, que c'est saint Thomas qui a baptisé Aristote. Et donc saint Thomas dit ça pour baptiser Aristote. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Proclus dit ça avant saint Thomas. Alors je m'explique pour que vous voyez bien. Si Proclus dit, en regardant le texte d'Aristote, en disant que l'acte pur, l'acte premier, l'acte pur, donc le moteur immobile, c'est la même chose, hein, c'est la même réalité, le moteur immobile et l'acte pur, c'est le négatif et l'éminence. C'est exactement la même chose, hein, c'est la même réalité. Mais c'est deux expressions différentes, or la science est au niveau de l'expression. Et c'est pour ça que c'est très important de bien comprendre qu'au niveau de la philosophie de la nature, je ne peux pas dire plus que premier moteur immobile, c'est négatif. Tandis qu'au niveau du livre Lambda, puisque je suis en philosophie première, je peux exprimer un mode d'imminence, acte pur. Alors, cet acte pur, à partir de cet acte pur, tout est suspendu. C'est merveilleux de dire ça. Tout l'univers est suspendu. Est suspendu à l'acte pur. Donc, suspendu, c'est-à-dire, et c'est que cet acte pur est cause finale. Et cause finale de toutes les réalités. Toutes les réalités n'existent qu'en dépendance radicale de l'acte pur, en étant suspendu. Très beau comme vision philosophique, hein, voir tout l'univers dans cette dépendance actuelle. Dans cette dépendance actuelle, à l'égard de l'acte pur. Bien, Proclus dit ceci, puisqu'il met cette dépendance au niveau de la cause finale, ça implique la dépendance du côté de la cause efficiente. Puisque la cause finale inclut la cause efficiente. Donc, s'il y a dépendance du côté de la cause finale, cela prouve qu'il y a une dépendance du côté de la cause efficiente. Et s'il y a une dépendance du côté de la cause efficiente, c'est bien la création. Oui ? C'est intéressant de voir que Proclus dit ça d'Aristote et que Saint-Thomas redira la même chose. Saint-Thomas montrera que les principes qu'Aristote a donnés incluent le problème de la création. Alors, il faut donc conclure, si vous voulez, pour être très précis, Aristote n'a pas traité du problème de la création, il a posé tous les principes pour qu'on puisse le dire. Tout simplement. Et vous voyez que les deux principes, c'est celui-là. D'abord, montrer que la création est à partir de rien, et deuxièmement, c'est de montrer que tout dépend de l'acte pur, dans le livre lambda. Vous explicitez ce que Proclus fait, et c'est intéressant que ce soit Proclus, parce que c'est un baptême grec, et non pas un baptême chrétien, c'est intéressant. Alors, ce baptême grec montre que la causalité finale implique la causalité efficiente. Et donc, on peut dire que les principes d'Aristote impliquent le problème de la création, mais qu'il ne l'a pas exprimé. Ne disons pas qu'Aristote a traité de la création. Aristote n'a pas traité de la création, mais Aristote a démoli la position du timé. Passons maintenant, je ne vais pas plus loin, ce n'est pas la peine, on ne va pas faire ici de l'érudition par rapport à Aristote. Je pose simplement le problème philosophique d'Aristote, la compréhension philosophique que nous devons avoir d'Aristote. Parce que dans le problème de l'érudition, on pourra discuter même quand le Christ reviendra dans sa gloire. Alors, on continuera de discuter le problème d'érudition d'Aristote. On aime mieux contempler. Immédiatement après Aristote, qui montre la transcendance, on peut dire que tout l'effort d'Aristote, c'est de purifier la découverte de Platon de la transcendance. Mais Platon reste au niveau de la transcendance du bien et de l'un, au niveau de la cause exemplaire. Je ne crois pas que Platon ait dépassé la cause exemplaire. Je ne crois pas. C'est une interprétation que je donne de Platon. Je ne crois pas qu'il ait dépassé la cause exemplaire. Aristote dépasse la cause exemplaire par la causalité finale. Donc c'est la métaphysique de l'acte. Mais c'est la métaphysique de l'acte qui montre comment le point de vue de Platon reste limité à la forme. Parce que la causalité exemplaire, c'est le point de vue de la forme. C'est le primat de la forme comme mesure de tout le reste. Et Aristote montre qu'il faut dépasser ce primat de la cause formelle pour aboutir à la métaphysique de l'acte, donc de la causalité finale. Tant qu'on n'a pas explicité l'acte, on n'explicite pas la causalité finale. Ça c'est sûr, au point de vue métaphysique c'est net. Donc Aristote a été le plus loin dans l'ordre de la découverte de la transcendance de l'être premier. Immédiatement après Aristote, on retombe dans l'immanence. La grande philosophie de l'immanence, ce sont les stoïciens, qui alors, à la place de parler de la création, parlent de la providence. C'est du reste intéressant. Ce sont les premiers qui vraiment parlent de la providence. Aristote parlait du gouvernement de Dieu. Vous savez bien, à la fin de la métaphysique, il y a ce petit passage très très intéressant qui donne l'analogie du général et de la victoire, hein, pour donner ce que c'est que le gouvernement divin, en montrant que le bien du général et le bien de l'armée, le bien immanent et le bien transcendant. Alors il fait l'application à Dieu. Ça, point de vue du gouvernement divin. Les stoïciens reprennent le problème de la providence. Alors, je ne le vois pas ici, mais c'est intéressant parce que nous pourrons le traiter après. Et après les stoïciens, en dépendance des stoïciens et dépassant les stoïciens, nous retrouvons Plotin. Alors, on pourrait dire que chez Plotin, le problème de la création se repose. Mais le problème de la création se pose chez Plotin d'une manière très particulière, par le point de vue de l'émanation. Alors là, c'est très intéressant pour tous ceux qui font le traité de la très sainte Trinité. On pourrait dire, vous voyez, en gros, en comprenant bien, sans faire d'éclectisme, hein, que Plotin confond le problème création et le problème de l'émanation trinitaire. Je crois qu'il y a les deux qui sont fusionnés dedans. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Parce que c'est intéressant de voir chez Plotin la première vision de la très sainte Trinité. La Trinité plotinienne, quand vous faites le traité de la Très Sainte Trinité au niveau théologique, ayez toujours en arrière-fond la Trinité plotinienne, qui est une fausse Trinité. Mais c'est intéressant de voir justement en arrière-fond musical, n'est-ce pas, de voir la Trinité plotinienne, parce qu'il y a un rythme très très extraordinaire, merveilleux, de Plotin sur la Trinité plotinienne, sur le mystère des trois. Je dis qu'avoir cet arrière-fond plotinien n'est pas du tout quelque chose d'extrinsèque à votre théologie de la Très Sainte Trinité, étant donné que les premiers pères sont plotiniens. Alors, vous comprenez que pour bien saisir l'effort de saint Thomas et comprendre la précision de saint Thomas, il faut avoir ce fond. Autrement, vous formalisez pour formaliser, ce qui est contraire à saint Thomas. Formaliser pour formaliser, vous savez bien ce que ça fait. Ça fait la chute en précipice. N'est-ce pas ? Parce qu'il n'y a plus rien qui s'appuie. Donc il faut tout le temps voir ce à cause de quoi je formalise. Et pour ça, il faut avoir toujours le fondement. Si on n'a pas le fondement, on ne voit pas. Et le fondement, c'est la Trinité plotinienne. Nous allons essayer de réfléchir quelques instants sur ce second moment du problème de la création chez les philosophes grecs, Plotin. Et ça vaut la peine, parce que Plotin est un grand bonhomme. Plotin ne forme pas, mais Plotin habite notre imaginaire. N'est-ce pas ? Alors, c'est bon, c'est très bon, parce que vous purifiez votre imaginaire avec Plotin, et c'est un bel imaginaire, parce que ça plane très très haut. Et ça va très bien, c'est beau, c'est grand. Alors, vous savez que pour Plotin, il y a cette trinité, l'un et le bien. Ou bien l'un et le bien, je ne sais pas. Faut-il mettre l'un enveloppé par le bien ? Ce que je croirais assez bien. Parce que l'un est enveloppé par le bien. L'un est au même niveau. Et vous savez ce qui fait comment Plotin peut essayer de comprendre l'unité qui existe entre le bien et l'un. C'est très très curieux, c'est la dynamis qui fait ça. C'est très intéressant dans ça, la métaxu. La dynamis, la puissance. Vous voyez, la toute-puissance. La toute-puissance, au fond, c'est l'être de Dieu. Il ne faut pas dire l'être de Dieu, parce que Dieu est sans être. Mais il ne faut pas oublier. C'est vieux, c'est Dieu, Dieu sans être. Hein. C'est très vieux, parce que c'est sans être. Sans l'être. Juste, sans l'être. Et quand je dis sans l'être, je veux dire sans intelligibilité. C'est ça que ça veut dire. Que l'être, c'est le lieu de l'intelligibilité. Alors, Dieu sans l'être, en réalité, on devrait dire Dieu sans l'intelligibilité. Ce qui serait rigoureusement vrai. Dieu sans l'intelligibilité, c'est-à-dire Dieu transcende toute intelligibilité quiditative. Alors, si vous identifiez l'intelligibilité et la quidité, ce que font tous les bons cartésiens, n'est-ce pas ? Et donc tous les bons français, donc tous, et tous les théologiens français font ça. Alors, comme ils identifient l'intelligibilité et l'aspect quiditatif, n'ayant pas la quidité de Dieu, ne pensant pas la quidité de Dieu, Dieu est sans intelligibilité. Il faut être aristotélicien au-delà de Descartes pour comprendre qu'il y a une intelligibilité antérieure à la quidité, antérieure à la forme, qui existe. Ça, c'est quand vous lisez Marcion, c'est très intéressant à voir sous ce point de vue-là. Parce que c'est la confusion cartésienne, comme ça qu'on devrait faire la critique, il n'a pas dépassé Descartes. Tout simplement. Il n'a pas dépassé Descartes. Ça me mettrait en fureur, mais en fond, ce serait une bonne fureur. N'est-ce pas ? Il n'a pas dépassé Descartes parce qu'il a confondu intelligibilité, quidité. Si vous confondez intelligibilité et crudité, vous avez parfaitement le droit. Confondre intelligibilité et crudité et intelligibilité et être. Donc vous dites Dieu sans être. En réalité, vous devrez dire Dieu sans l'intelligibilité de la crudité. Parce que nous sommes tout à fait d'accord. Nous ne pouvons pas définir Dieu. Dieu n'a pas de crudité par rapport à nous-mêmes. Il en a une, mais qui nous dépasse complètement. Donc, nous ne saisissons pas la crudité de Dieu. Donc il est au-delà. Alors, sans l'être, c'est-à-dire sans l'intelligibilité, et si on est après Descartes, sans avoir dépassé Descartes, sans crudité. Toujours bien voir ces trois. L'être, l'intelligibilité, et ça, c'est l'héritage de Platon. C'est l'héritage néo-platonicien. C'est là qu'il y a un lien entre les néo-platoniciens et les cartésiens. Toujours un lien entre les deux. Et un lien entre les néo-platoniciens et l'ontologisme. Vous voyez ? Retrouver le même courant avec des gammes différentes, des modalités différentes, mais c'est le même héritage. C'est l'être égale l'intelligibilité, l'intelligibilité égale la crudité. Alors à ce moment-là, je comprends qu'on dit Dieu sans l'être. Si j'identifie intelligibilité et être, et intelligibilité et crudité, je comprends très bien qu'on peut dire ça. Ça, c'est le néoplatonisme, et c'est l'ontologisme. C'est important de saisir cette grande lame de fond, hein, au point de vue philosophique. Donc, le bien, l'âme et l'être, c'est le premier, la première hypostase, l'hypostase première. De là, alors c'est là le problème bien intéressant, de la émanation. Émanation de ce que représente nous, intelligence. Et cette intelligence, elle est au niveau de l'être, ou plus exactement des êtres. Elle est au niveau des intelligibles. Elle est au niveau de la beauté. Elle est au niveau de l'éternité. Quand on étudie Plotin, il faut toujours bien saisir ces niveaux différents d'intelligibilité. Et bien voir tout ce qui est à ce niveau-là. Et toutes les cellules qui sont au premier étage, au second étage, au troisième étage. Comprenez bien. Il y a des numéros différents. Et alors il y a tout ce qui est à l'étage supérieur, suprême. C'est le bien et l'un. Alors comment se fait l'unité? La dynamique. Très très curieux. Il faut bien que cela dynamise, puisqu'il y a émanation. C'est une émanation qui se fait à partir de la toute-puissance. Et cette émanation va impliquer le régressus. Donc émanation et régressus. L'émanation et le retour se font en même temps. C'est sûr. Mais se font en même temps, il y a quand même deux expressions différentes. Donc il y a émanation et retour. L'aller et le retour. L'aller provient de la dynamis et le retour se fait vers le bien. C'est la toute-puissance qui est source d'émanation et Platon dira textuellement hein, l'être parfait engendre. L'être parfait engendre nécessairement. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qui commande tout. Cette émanation, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Il ne peut pas y avoir d'émanation. L'un ne peut pas ne pas être source du nous. Impossible. Il est nécessairement source du nous. Et il est nécessairement source du nous, et le nous est à l'image, mais est comme du bien et de l'un. Il est l'image du bien et de l'un. Il provient du bien et de l'un. Il est l'image. Et entre le bien et l'un, dans cette émanation, vous trouvez l'énergéant. Les énergies. Vous savez qu'ils jouent tellement un rôle dans toute la théologie orthodoxe, qui a fait aussi, là aussi, beaucoup de... Les énergies. Les énergies, c'est pas Dieu, mais c'est les émanations de Dieu. Alors, on le trouve chez Platon, ces expressions-là. Et on le trouve dans la théologie de Palamas, hein, la grande théologie de Palamas, qui commande toute la théologie orthodoxe aujourd'hui. Et là, c'est intéressant de voir que ces mots-là sont des mots plotiniens, qui proviennent de Plotin. C'est le point de vue énergéien. Il y a image et énergéia, l'acte. L'acte est au niveau de l'émanation. L'acte, ce n'est pas l'acte pur, vous voyez. C'est au niveau de l'émanation, c'est au niveau du lien entre les deux. Autrement dit, il faut saisir qu'il y a une dégradation. Quand on passe du bien au nous, il y a une certaine dégradation. Ça ne peut pas être autrement. S'il n'y avait pas de dégradation, ben, tout serait au même niveau. Serait dans l'unité. Or, tout n'est pas au même niveau. Il y a émanation. C'est pour ça qu'il y a création. Forcément. Cette émanation implique création. Donc cette émanation n'est pas du tout comme dans la théologie de la très sainte Trinité, où l'émanation n'impliquera aucune dégradation. Le Fils n'est pas moindre que le Père. Il est engendré du Père et il est dans le Père. Il ne fait qu'un avec le Père. Tandis que jamais Plotin ne dira que le nous, seconde hypostase, qui dépend totalement du bien, est égal au l'un. Pas du tout. Le nous est totalement relatif au bien et dépend entièrement du bien. Il provient du bien. Alors, il émane de lui, il retourne vers lui. Vous l'avez à partir du nous, dans son retour vers l'un, puisqu'il n'est parfait que dans son retour vers l'un, c'est dans la regressus, dans le retour, hein, c'est dans le retour que nous trouvons la fécondité. Ça peut être autrement, puisque c'est la perfection implique ce retour. L'être inférieur n'est parfait que quand il est uni à son être supérieur. Tant que je ne suis pas uni à mon être supérieur, je suis imparfait. Tandis que quand je suis uni à mon être supérieur, il y a une perfection. Alors, à partir du nous qui contemple et qui retourne vers l'un, vous avez le point de vue de l'âme. La psyché. Alors, c'est cet âme universel, en train de dire, cet âme universel du cosmos, du monde. Cet âme universel du monde va impliquer du reste l'âme particulière de chacun. Oui.
Est-ce que c'est pas ça qu'on retrouve dans le bouddhisme?
Ah, on va rentrer dedans. Rentrer dedans, c'est ça. Il y a des analogies, mais il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a toujours un peu, c'est normal. Hein. C'est normal quand je dis que c'est une imagination très religieuse, très poétique, on la retrouvera fondamentalement partout. Mais si nous nous disons que nous sommes créés à l'image de la très sainte Trinité, c'est normal que nous essayons de retrouver en nous l'image de la très sainte Trinité. Et quand vous regardez le De Trinitate de saint Augustin, saint Augustin est platonicien et un peu néo-platonicien. Et saint Augustin est chrétien. Et alors il va essayer dans le De Trinitate de baptiser ses émanations et ses ressources. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Et c'est pour ça que vous retrouvez dans le De Trinitate, parce que je crois, quand on fait le traité de la très sainte Trinité dans saint Thomas, il faut avoir ce fond plotinien, il faut voir le baptême de ce fond plotinien par Augustin, et puis saint Thomas ensuite. Et saint Augustin se dépêche à peu près comme il peut, mais ça reste encore un niveau assez psychologique. C'est bien le gros grief des orthodoxes par rapport à saint Augustin, ce qu'ils n'aiment pas du tout saint Augustin des orthodoxes. Hein. Le gros grief, il est trop latin. Alors le gros grief des orthodoxes par rapport à saint Augustin, c'est de dire qu'il est trop psychologique. Et il y a quelque chose de juste. Je ne dirais pas qu'il est trop psychologique, mais je dirais qu'il reste trop au niveau de la vie. Ce qui revient à peu près au même, si vous voulez. Mais il reste trop au niveau de la vie. Il n'a pas fait la distinction suffisante entre vie et être. Et ce qui est très curieux, c'est que les orthodoxes eux-mêmes restent trop au niveau de la vie. C'est pour ça qu'ils sont tellement en opposition. Parce que ce sont les deux contraires qui sont dans le même genre. Alors vous retrouvez les mêmes oppositions. Parce que les orthodoxes ne font pas la distinction entre être et vie. Alors ils parlent toujours qu'il faut une position ontologique contre le point de vue psychologique. Et vous voyez que c'est toujours le point de vue vital. Donc c'est un psychologisme, un ontopsychologisme, n'est-ce pas ? Un psychologisme qui se veut fondamental et qui se veut au niveau de l'ontologie. Donc, troisième hypostase, l'âme. Et à partir de l'âme, le point de vue du corps, mais le corps n'est plus divin. Tandis qu'ici, nous sommes en face du domaine du divin. Le corps est devenu la matière. Puisque l'émanation de l'un ira jusqu'à la matière. Il y a jusque dans la matière, il y a la marque de l'un. C'est la grosse différence entre Platon et Plotin. Pour Platon, la matière est errante. Donc elle est en dehors de la création. Le grand mérite de Plotin, c'est de réintégrer la matière dans l'émanation. Et ceci, sans doute, c'est l'influence aristotélicienne et stoïcienne sur Plotin par rapport à Platon. Alors ça, c'est très important, parce que c'est intéressant de voir comment il réintègre le corps, il réintègre la matière. La matière n'est pas du non-être. Tandis que, vraiment, hein, on peut dire que pour Platon, voilà, corps et matière, non-être. Corps et matière sont extrinsèques à l'influence du divin et sont les limites du divin. Tandis que pour Plotin, c'est intégré dedans. C'est intégré dedans. C'est là où c'est très difficile de comprendre la logique de Plotin. Il est mystique, alors il est dans les eaux profondes, et étant dans les eaux profondes, il est au-delà de la contradiction, comme tout le monde sait. Alors il est au-delà de la contradiction, étant au-delà de la contradiction, il peut très bien faire qu'il y a un lien entre l'un et la matière. C'est un des problèmes les plus intéressants de Plotin, ça. C'est de voir le lien entre la matière et l'un. Et de voir jusqu'où va cette émanation. Alors, voyez, on pourrait dire, hein, comprenons bien, on pourrait dire que chez Plotin, quand je regarde ce point de vue-là, on a ce passage qui serait le problème propre de la création. Le passage du divin au corruptible. Le passage du divin au corruptible, c'est vraiment le problème de Parménide, c'est le problème de Platon, c'est le problème qu'au fond tous les philosophes se sont posés. Comment de l'un, on dégringole vers le multiple? C'est pour ça que Plotin dit que le grand problème philosophique, c'est le problème du passage de l'un au multiple. Alors, le multiple, il est au niveau de l'être. Il y a un multiple du côté de l'intelligible, et le multiple, il est du côté de la matière. Ça, c'est le multiple des individus. C'est le multiple dans la corruption, dans le corruptible. Alors, vous voyez que si je regarde Plotin, je vois qu'il y a un double problème. Il y a le problème de l'émanation, passage du bien au nous, du nous à l'âme. Ce problème d'émanation implique une dégradation. S'il implique une dégradation, il implique nécessairement une intervention du non-être. Ça ne peut pas être autrement. Le nous comparativement à l'un est limité. Le nous comparativement à l'un n'est pas absolument pur. Il dépend et doit retourner. Donc, il y a une dégradation. S'il y a une dégradation, il y a donc une création. Ce n'est pas une pure émanation. Il y a une création. Mais c'est véritablement le passage du divin au corruptible où je suis en face du problème de la création. Alors, comment Plotin conçoit-il la création? C'est ça qui m'intéresse au problème philosophique. Une fois que j'ai essayé de comprendre rapidement sa pensée, c'est assez facile, vous savez, une fois qu'on a compris Plotin, ça revient toujours au même. Hein. Toujours au même, ça. Ça se reprend de multiples manières, c'est très très beau, c'est très intéressant, mais au fond c'est toujours les trois hypostases et le passage des trois hypostases au domaine du corps et au domaine de la matière. Et alors évidemment, là vous êtes en face du problème du temps. Déjà c'est l'éternité, c'est l'opposition entre le temps. Le temps et l'éternité chez Plotin, vous voyez Jean Guiton, n'est-ce pas? Et c'est sa thèse. Intéressant de voir, c'est ça, un des beaux livres de Guiton. Il a fini de voir le temps et l'éternité chez Plotin. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment un des gros problèmes. Alors, et c'est le problème, ça touche au problème de la création. Comment Plotin conçoit-il la création? elle est présente. Je crois qu'on peut dire que Plotin conçoit la création comme une génération. L'être parfait doit engendrer. Et donc, l'émanation est une émanation vita, qui est une procréation. Il y aura deux types de procréation, il y aura deux types d'émanation, une émanation qui demeure dans le divin, et une émanation qui sort du divin. Alors là, on peut dire que le schème de l'émanation et de la procréation se retrouve à deux niveaux différents. Mais en fond, c'est toujours à ce niveau-là que je crois que c'est conçu. C'est toujours au niveau l'être parfait nécessairement engendre. Ceci, c'est déjà chez Hésiode. Donc, c'est le début de la philosophie grecque, au terme de la philosophie grecque. Vous voyez toujours que ce qui est parfait engendre. Vous savez que dans la théogonie d'Hésiode, il y a deux principes qui jouent. Le principe de celui qui est source d'un autre engendre un être semblable. Donc, il y a une similitude et en même temps, il y a une dissimilitude. Alors, au fond, on retrouve le même problème. Dans la première émanation, dans le premier engendrement, la similitude est plus forte que la dissimilitude. Et le passage du divin au corruptible, la dissimilitude est plus grande que la similitude. On retrouve les deux mêmes principes. Autrement dit, nous sommes là en présence, si nous mettons Aristote derrière Plotin, qu'Aristote aurait-il dit à Plotin ? Qu'est-ce qu'Aristote aurait-il dit à Plotin ? Comme Aristote dit à Platon, est-ce que Aristote aurait été plus indulgent pour Plotin qu'il ne l'a été pour Platon ? Posez le problème comme ça. C'est intéressant. Est-ce que Aristote aurait été plus indulgent pour Plotin que pour Platon ? Eh bien, je ne crois pas. Ça aurait été exactement le même. Autrement dit, et la seule différence, hein, la seule, vous montrez bien, Plotin n'est pas Platon. Platon, d'une certaine manière, est plus pur que Plotin. Parce que Platon parle du passage du divin au corrupté, dont on ne parle que de ce passage-là. C'est ici l'univers, c'est là. C'est l'ultimé. C'est l'ultimé. Et ce passage, Platon le conçoit sous un mode artistique, puisqu'il y a la cause exemplaire. Et Plotin le conçoit non pas sous un mode artistique, mais sous un mode génétique. Alors, c'est ça qui m'intéresse ici. Et le mode artistique du Timée, Aristote ne l'accepte pas parce que ça reste au niveau de la forme. Toute activité artistique est au niveau de la forme et donc au niveau du devenir. Et c'est pour ça qu'Aristote ne l'accepte pas. Plotin, lui, conçoit le point de vue de l'émanation avec deux moments différents, à l'intérieur du divin et le passage du divin au corruptible. Et il conçoit le point de vue de l'émanation comme une émanation vitale. Puisque c'est toujours le principe, tout ce qui est parfait, tout être parfait, tout vivant parfait engendre. Donc c'est le point de vue de la vie, c'est le point de vue de la procréation. C'est pas le point de vue artistique. C'est très curieux. C'est plus du tout le point de vue artistique. Le point de vue du Timée disparaît complètement. La cause exemplaire disparaît complètement. Hein. Elle est remplacée par le point de vue génétique. Mais par le point de vue génétique, nous retrouvons exactement la même chose, c'est que ça demeure un mode qui implique le point de vue du devenir. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment nettement, je reprends d'une autre manière pour que vous le voyez. Ça me semble intéressant et important à saisir ça. Parce que nous passons pour une vie philosophique, on doit toujours se demander qu'apporte pour nous Platon. Qu'importe pour nous Aristote. Alors, c'est ça qu'on va faire, si vous voulez, le petit compute dernier. Qu'importe pour nous Platon dans le Timée. Je crois qu'en faisant ce résumé, vous comprendrez mieux. Qu'importe pour nous le Timée. une première ébauche de la création par la causalité artistique. C'est intéressant que c'est par la causalité artistique, donc la causalité exemplaire, qui a cette première ébauche de la création. Et le timé demeure cette première ébauche philosophique de la création par le mode artistique. Que dit Aristote face à ça, donc critique d'Aristote, vous ne dépassez pas le devenir. Ce qui est normal, puisque la causalité artistique est au niveau de la forme, et que la forme se transmet de l'artiste à la matière, toujours sur le mode devenir. Donc vous ne dépassez pas le devenir, vous n'expliquez pas la création, puisque la création ne peut être qu'au niveau du non-être. Deuxième position, positive. Hein. Parce qu'Aristote, c'est négatif. Cerbère, il dit, vous ne passez pas là. Impossible. Impossible. Hein. Deuxième position, celle de Plotin. Que dit Plotin ? Causalité d'art. Le vivant parfait engendre. Vous êtes au niveau vital. Alors, au niveau vital, vous avez l'immanence. L'immanence est toujours première, quand il s'agit d'être. Et c'est vrai. Dans les émanations, ce qui est premier, c'est l'immanence. Mais cette causalité vitale va impliquer aussi une dégradation. Et donc, il va y avoir une immanence, mais une immanence qui va impliquer une dégradation. Ce n'est pas une immanence de pure similitude. Il y a une similitude. Mais il y a en même temps une dissimilitude. Il y a donc en même temps une chute, un passage qui va impliquer dedans. Et ça, le point de vue de la vie n'explique pas entièrement.